Bonjour à tous. Je vous propose de parler aujourd'hui de la mitochondrie. Je sais, c'est un sujet fun, la mitochondrie, et ce petit organisme qui vit à l'intérieur de nos cellules. Les biologistes pensent que ça fait 2 milliards et demi d'années que c'est le cas, c'est-à-dire que des cellules de type probablement bactériennes ont été infectées par d'autres cellules de type bactérienne. La différence, c'est que avant, ce sont des cellules qui ne peuvent vivre que de la, de la, de, qui peuvent vivre qu'en utilisant la fermentation pour comme source d'énergie, c'est-à-dire une transformation en l'absence d'oxygène. Et avec l'arrivée de la mitochondrie dans l'organisme, la cellule peut être capable d'utiliser l'oxygène pour oxyder les aliments et du coup multiplie par 2 à 4 sa capacité à produire de l'énergie. Non seulement, mais en plus, ça permet à des cellules d'utiliser l'oxygène de l'air qui est à cette époque quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que quand la vie est apparue sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air. Et cet oxygène est le fruit de cette fermentation en fait, des bactéries. Cet oxygène a commencé par oxyder tous les métaux qui étaient présents dans l'atmosphère. C'est l'origine de tous les filons de fer, d'or et autres métaux qu'on trouve dans les couches de la croûte terrestre. Mais une fois cette oxydation faite, il n'y avait plus rien pour réagir avec l'oxygène et donc on s'est retrouvé avec une atmosphère à peu près stable faite d'azote et d'oxygène. Et l'oxygène, c'est quelque chose de très agressif pour les organismes vivants. Donc jusqu'à l'infection d'une cellule par une bactérie, la mitochondrie, eh bien, la cellule était incapable de se développer dans l'atmosphère en présence d'oxygène. À partir de ce moment, la vie devient possible. Donc, pour cette raison qu'on peut utiliser l'oxygène et pour une autre raison qui est que on est capable, à partir de ce moment-là, de s'échanger d'énergie entre les cellules. C'est-à-dire que subitement, un amas de bactéries qui devient un organisme qui passe son temps à mourir, c'est-à-dire que les cellules à l'intérieur de l'amas n'ayant plus accès à des nutriments dépérissent, subitement, parce qu'il y a échange d'énergie entre les cellules, eh bien les cellules à l'intérieur de l'amas peuvent recevoir l'énergie nécessaire et donc peuvent commencer à rentrer dans des processus de spécialisation en offrant d'autres productions au reste des cellules. C'est le début en fait des organismes vivants tels que nous les connaissons et c'est lié à cette mitochondrie. Alors la mitochondrie aujourd'hui dans un corps humain, il y en a entre 1000 et 15 000 par cellule humaine. C'est-à-dire que les cellules qui ont le moins besoin de dépenses énergétiques, que ce soit les cellules musculaires, ont à peu près 1 millier de mitochondries dans chaque cellule. Quand on parle de cellules du cœur, on monte à 10 000, et quand on parle de cellules du cerveau, on monte à 15 000 par cellule. Et ces mitochondries vont faire un travail quotidien de produire cette énergie échangeable qu'on appelle l'ATP, ça veut dire adénosine triphosphate, c'est-à-dire que ça décrit trois phosphates qui se repoussent très violemment comme des aimants, qui sont réunis ensemble par une protéine qui s'appelle l'adénosine. Donc l'analogie, si vous voulez, c'est les cellules s'échangent des espèces de petits ressorts qui sont qui sont comment dire, maintenus armés, qui sont maintenus compressés par un petit brin de ficelle qu'est la lignosine. Et dès qu'on a besoin d'énergie, eh ben, on va relâcher un de ces phosphates qui va donner à la fois de l'énergie d'un côté et de l'autre côté un adénosine diphosphate, ADP. Et les mitochondries qui peuplent nos cellules vont recharger cet ADP en ATP. Et ça, à un rythme absolument incroyable. C'est-à-dire que nous allons produire l'équivalent de notre poids en ATP. Quand je dis produire, il faut entendre recharger. Nous allons recharger des ADP à raison de 60-70 kg par jour. C'est une quantité incroyable de production d'énergie que nous faisons en permanence. Et l'absence d'oxygène, en interrompant cette production, va mener à une mort très rapide. Donc c'est le cœur de notre vie et finalement la production par cet organisme à l'origine étranger à notre cellule qui passe sa vie à produire de l'énergie. Alors, je dis un organisme à l'origine étranger, mais aujourd'hui encore on peut le considérer comme étranger car il a son propre ADN. C'est-à-dire que vous avez au sein de vos cellules des séries de mitochondries qui, pour la plupart, ont comme origine génétique les gènes des mitochondries de votre mère. Dans l'ovocyte se trouvent là encore des milliers de mitochondries et elles sont celles de votre mère. Et on apparemment une proportion très très faible réussit à rentrer avec le spermatozoïde du père. Donc voilà, globalement, sachez que c'est un autre cadeau que vous fait, que vous a fait votre mère à la naissance. C'est le don de ces mitochondries. Alors, la mitochondrie, c'est souvent qualifié dans la littérature anglo-saxonne d'usine énergétique, d'usine de production d'électricité, de production de pouvoir, de production d'énergie, parce que, parce que ça produit tout cet ATP, mais quand on regarde dans le détail ce qu'est une mitochondrie, on s'aperçoit que c'est réellement une usine. C'est réellement une usine et l'énergie ou l'électricité est vraiment présente dans sa façon de fonctionner, puisqu'en fait, les nutriments vont rentrer dans la mitochondrie, ils vont rentrer en fait après une transformation qui commence dans l'intestin, qui va les découper en morceaux primaires, dont vous avez tous entendu parler, donc que sont le glucose, que sont les acides aminés et les acides gras. Et ces éléments vont parvenir jusqu'à la cellule. Et la cellule va procéder à un découpage un peu plus approfondi ou à une dernière transformation. Donc dans le cas du glucose, ça va se transformer avec une bonne douzaine transformations successives d'une bonne douzaine d'opérations en un composant qui s'appelle le pyruvate. Le pyruvate, chaque glucose va donner deux pyruvates qui vont rentrer dans la mitochondrie. Là, ils vont se coupler avec un oxygène et arriver à un dernier un composant qui s'appelle l'acétyl-CoA et qui est le point d'entrée d'un cycle qui a été découvert dans les années 20, qui a donné lieu à un prix Nobel, qui est le cycle dit de Krebs. Donc c'est une série d'opérations successives, de réactions successives, qui ont pour objet d'apporter des électrons à des composants présents dans la mitochondrie. Donc ces composants sont le NADH et le FAD. Ces composants vont eux-mêmes alimenter un cycle qu'on appelle le cycle du transport d'électrons, dont l'objectif est de faire sortir de l'intérieur de la mitochondrie un électron. Alors, quand on parle d'acides aminés, il y a aussi un cycle qui permet d'aller jusqu'à l'acétyl-CoA. Et quand on parle des acides gras, des chaînes de triglycérides, eh bien, on a aussi un cycle beaucoup plus efficace, qui est un cycle de bêta-oxydation, c'est-à-dire de découpage au deuxième niveau de l'acide gras, au deuxième carbone de l'acide gras, le carbone bêta. Il y a un découpage qui a lieu et qui donne beaucoup plus directement, en fait, là encore, de l'acétyl-CoA. Donc cet acétyl-CoA rentre dans le cycle de Krebs, fait tourner en rentrant dans cette série de réactions que le cycle de Krebs va recharger des NADH et des FAD. Il y a aussi un autre rôle qui est de recharger le potassium, mais c'est une autre histoire, puisque ça n'a pas un impact direct dans la production d'énergie. Et cette production, en fait, ce rechargement de NADH et de FAD va contribuer à renforcer, enfin, ou à recharger la production d'énergie de cette mitochondrie. Alors, la mitochondrie, vous avez peut-être vu dans vos cours de biologie il y a longtemps une représentation schématique. C'est une membrane extérieure et une membrane intérieure avec un espace qu'on appelle l'intermembrane entre les deux et un espace qu'on appelle la matrice à l'intérieur de cette membrane intérieure. Donc le cœur de la mitochondrie, c'est la matrice. C'est dans la matrice que se trouve, qu'a lieu le cycle de Krebs. C'est dans la matrice qui est rechargée le NADH et le FAD. Et c'est sur la membrane intérieure qu'on va retrouver les complexes 1, 2, 3, 4 qui ont pour objet à la fois faire sortir des protons en dehors de la matrice pour les mettre dans l'intermembrane et à la fois de les laisser rentrer par des endroits spécifiques, donc dans le complexe 4 qui est l'endroit qui sert à la production de l'ATP. Donc je résume. Les nutriments rentrent à l'intérieur des deux membranes, donc dans le cœur de la mitochondrie, la matrice. Là, ils sont traités par la mitochondrie pour permettre de recharger en protons l'intermembrane, c'est-à-dire cet espace entre la membrane extérieure et la membrane intérieure. Alors, qu'est-ce que ça fait un organisme dans lequel il y a une énorme charge de protons entre deux membranes et finalement un manque de protons dans la matrice? Ben, c'est une tension, une énorme tension. Et cette énorme tension fait que les protons vont chercher par tout moyen à re-rentrer dans dans la matrice. Et pour ça, ils ne peuvent le faire qu'en passant par donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, le complexe 4, c'est le quatrième complexe de cette chaîne de transport d'électricité. Et si vous regardez la façon dont est fait ce complexe 4, c'est une sorte d'entonnoir avec une protéine dans cet entonnoir. Et cette protéine va rentrer en rotation par l'effet des protons qui rentrent. Donc les protons, en rentrant, vont faire tourner une espèce de turbine. Et c'est cette espèce de turbine qui va mécaniquement faire rentrer en collision un ADP, adénosine diphosphate, et un troisième phosphate. Et c'est ça qui va permettre de les mettre ensemble, de recharger le ressort. On est quasiment dans de la mécanique, on est quasiment dans quelque chose où l'analogie avec un barrage hydroélectrique n'est pas aberrante, sauf que ce n'est pas de l'eau à qui on donne une puissance parce qu'elle est en hauteur, mais que c'est des protons qui sont en surnombre d'un côté et qui cherchent à revenir dans les endroits où il y a plus d'électrons. Et ces petits complexes-là, dans chacune de vos mitochondries, il y en a 32 000. Il y a 32 000 turbines dans chacune des 1 000 à 15 000 mitochondries qu'on trouve dans vos cellules. Et ces unités de production, celles qui font les 60 à 70 kilos de rechargement d'ATP, qui sont partout dans votre corps, sont des quasi-bactéries. Donc elles sont très sensibles à tout ce qui va tuer les bactéries, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les produits oxydants qu'on a autour de nous ou qu'on produit dans notre organisme. Voilà, donc vous voyez, une bactérie étrangère, ou elle n'est plus maintenant une bactérie parce que probablement elle s'est dépossédée de tout ce qui lui était plus nécessaire parce que entretenue par la cellule, mais cette ancienne bactérie est le point essentiel qui supporte notre vie. Donc il faut bien entendu s'efforcer de les traiter avec respect, d'autant plus que leur rôle dans un certain nombre de maladies sont de plus en plus mis en avant. Leur rôle dans les maladies neurodégénératives de type des scléroses en plaques est apparemment très net. Mais leur rôle dans le cancer est en train d'être mis en avant, notamment parce que la théorie initiale du cancer, qui était de dire que par nos déchets, pollution, etc., on va abîmer des brins d'ADN, et parmi toutes ces mutations qu'on va générer, l'une d'entre elles, par malchance, va s'avérer être capable de bypasser, de réussir à faire un raccourci qui contourne les défenses dans la reproduction de l'ADN, c'est-à-dire l'ADN n'est pas supposé se reproduire quand il est de mauvaise qualité, mais parfois il le fait malgré tout parce que pas de chance. Donc ça, cette théorie qui dit bon ben c'est pas de chance, mais sur les millions de mutations qu'on fait chaque jour, ben, il faut bien qu'il y ait un moment où il y ait quelque chose qui se produise qui soit pas prévu. C'est cette théorie sur le cancer. Mais vous voyez, c'est une théorie qui dit c'est pas de chance. Or, quand on regarde des cancers du sein, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une mutation mal faite qui s'est répandue et qui est devenue, mais qu'il y en a des dizaines. Donc, une mutation qui a réussi à bypasser le système de protection, c'est pas de chance. Une dizaine, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que là, on est dans des probabilités qui ne sont pas de l'ordre du hasard. Et du coup, ça remet en cause cette idée et vient une nouvelle idée qui est, oui, mais ce qu'on remarque, c'est que dans les cellules cancéreuses, les mitochondries sont en mauvais état. Les mitochondries ont été abîmées et du coup, elles ne peuvent plus faire leur travail, qui est un travail apparemment de donner à la cellule des informations sur le fait qu'on peut se développer ou pas, qu'il faut aller vers des processus anaboliques ou des processus cataboliques. Donc anabolique étant le fait de se développer et catabolique étant le fait de se réduire. Et donc là, ce qui mène à un certain nombre de gens à penser que le bénéfice de ne pas manger de sucre et de moins abîmer la mitochondrie, puisque la transformation du glucose avec sa douzaine d'étapes est assez polluante pour la cellule. Et ça mène aussi à penser que le fait de faire du jeûne assez régulièrement est une occasion pour le corps de recycler les cellules en mauvais état, mais aussi les organelles dont la mitochondrie en mauvais état, et donc de permettre à des mitochondries d'être recyclées quand elles sont dans un état qui n'est pas optimum. Voilà, donc je pense que c'était intéressant de vous attirer l'attention sur ce micro-organisme si essentiel à notre vie. Et j'espère que vous allez maintenant faire attention à protéger vos mitochondries pour avoir le maximum d'énergie possible avec le minimum d'efforts. Merci à très bientôt.